Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Un Clap Cinéma en lien avec le Festival des écrans britanniques et irlandais qui s'est tenu au mois de mars et où nous avions rencontré John Reichenbach qui est également à notre micro par téléphone. Bonjour John.
Bonjour Sylviane.
Alors, je vous présente à nos auditeurs qui n'étaient pas au sémaphore lorsque vous avez présenté un film qui s'appelle, je le dis en français, Les Pas de la Liberté, histoire de la danse irlandaise. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Comprendre les Irlandais aux éditions Rive Neuve. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à Radio France, à Arte, à Europe 1, à France Télévisions. Tout ça, c'est juste.
Absolument.
Vous êtes d'origine irlandaise par votre mère. Et vous avez un pied en France et un pied en Irlande, hein, on va dire ça comme ça?
Oui, absolument, absolument.
Et donc, vous étiez à même de présenter, bien sûr, ce festival irlandais et ce film qui était un documentaire, hein, The Step of Freedom, The Story of Irish Dance, excusez pour, pour l'accent. Et en quoi, on commence par là, par le cinéma. Est-ce que pour vous, d'abord, est-ce que vous la dansez, la gigue irlandaise ou même?
Non, c'est très, très difficile. Je pense qu'il faut commencer à l'apprendre tout petit. C'est d'ailleurs le cas, hein, en Irlande.
Oui.
Il y a énormément d'enfants qui commencent à apprendre la danse irlandaise à la sortie du berceau, quoi.
C'est un élément d'identité et c'est un élément, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un élément aussi de résistance, d'identité. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comprendre les Irlandais ». C'est facile ou c'est difficile de comprendre les Irlandais?
Bah, écoutez, je vous pose la question sur les Français. Comprendre les Français, ce n'est pas évident non plus.
D'accord.
Donc, chaque peuple a effectivement ses particularités, ses complexités. C'est également le cas avec les Irlandais. C'est un tout petit peuple. Hein. C'est 5 millions d'habitants dans le sud de l'Irlande, 2 millions dans le nord de l'Irlande. Vous voyez, 7 millions d'habitants.
Ouais.
C'est aussi grand que la Nouvelle-Aquitaine en nombre d'habitants et en nombre également en superficie.
Donc, on sait que c'est compliqué. Ça fait partie d'une collection où vous aviez un certain canevas à respecter, hein, puisqu'il y a d'autres comprendre dans cette collection. Et il faut dire tout de suite, ce n'est pas un guide touristique, hein, c'est un guide de voyage interculturel.
Oui, alors ça n'a rien à voir avec le guide du routard, par exemple. D'ailleurs, le slogan de cette collection, « Comprendre les peuples », chez Rive-Neuve, donc c'est un éditeur parisien. Donc le slogan, c'est pas une seule adresse d'hôtel, pas une seule description touristique. C'est un guide de voyage assez spécial à l'attention des voyageurs qui ne veulent pas à tout prix éviter les habitants du pays qu'ils visitent. Vous voyez, c'est très particulier. On rentre vraiment dans l'âme des peuples qu'on décrit.
Oui, c'est l'anti-tourisme de masse où on ne va surtout pas côtoyer les autochtones. Voilà, on va dire ça comme ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, vous êtes bien placé, bien sûr, pour parler de cirques irlandais. Vous avez fait préfacer par Hugo Hamilton. Qui est Hugo Hamilton? Pourquoi vous l'avez fait préfacer
Alors,
par lui?
C'est un grand écrivain irlandais qui a écrit une quinzaine de livres, d'ailleurs qui sont tous traduits en français chez Phoebus, donc l'éditeur Phoebus. Et donc, il a obtenu notamment le prix Femina pour un livre formidable qui s'appelle « Sang impur ». Et donc, c'est lui qui a accepté de préfacer ce livre parce qu'il a vraiment un regard sur l'Irlande du passé, mais aussi sur l'Iran d'aujourd'hui. Et donc, il en parle très, très bien avec ses mots d'écrivain.
Oui, parce qu'il y a, c'est pas un guide de tourisme, mais il y a toute une partie historique. Et je voudrais signaler à nos auditeurs, pardon, que c'est très riche. Hein, c'est-à-dire, on peut autant avoir une vision historique, que sociologique, que économique, que donc on peut piocher un chapitre après l'autre. On n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Et je vous propose de lire un petit passage de la préface de Hugo Hamilton. Je trouve qu'il est assez représentative de ce que vous avez voulu faire. Je vous laisse le lire.
Oui, je vous lis ce petit passage. En tant que petite nation à la périphérie de l'Europe, nous avions ce besoin de faire partie du monde. Nous avons abandonné notre langue maternelle et embrassé une langue mondiale, donc c'est l'anglais, une langue qui nous permet d'être chez nous partout, de la Californie à l'Australie. À bien des égards, nous sommes entrés dans ce monde globalisé dès les années 1800, avec nos émigrants en partance vers l'Amérique. Cela nous a permis de comprendre ce que signifie faire partie de la communauté mondiale tout en restant caché à la périphérie de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes devenus une nation insulaire, confiante et sûre d'elle-même, dotée d'une identité qui ne craint pas d'être engloutie ou de devenir lentement la même que celle du monde entier. Chaque visiteur venant en Irlande sera immédiatement frappé par la façon dont les Irlandais parlent à un étranger. Nous sommes incroyablement curieux. Nous avons ce désir insulaire de savoir comment nous situer. Nous avons conservé d'autres valeurs fondamentales, comme notre besoin de chanter. Les Irlandais continuent de chanter sans raison évidente, comme une sorte de besoin incontrôlable de hurler à la lune lorsque nous rentrons chez nous en cheminant dans les rues. Nous avons envie de célébrer et d'oublier la réalité jusqu'au lendemain.
C'est un très beau texte et c'est vrai que ça donne envie de lire, d'approfondir, à la fois pour ceux qui connaissent déjà l'Irlande, mais comme moi j'y suis allée il y a 40 ans, je pense que là je serais très surprise en allant en Irlande puisque c'est devenu maintenant un pays à la pointe de la technologie, à la pointe de l'Europe, je pourrais presque dire, même géographiquement.
Oui, encore dans les années 80, au début des années 90, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe, avec le Portugal, la Grèce, ne parlons même pas des pays de l'Est qui n'étaient pas encore dans l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, grâce à un certain nombre d'éléments, l'entrée dans l'Union européenne dans les années 70, l'installation des multinationales américaines, mais aussi européennes en Irlande, eh bien, c'est devenu un pays très prospère. Aujourd'hui, vous avez un niveau de vie qui est bien supérieur à celui de l'ancien colonisateur, entre guillemets, que sont les Anglais, par exemple.
Oui. Donc toujours cette allusion en fait à l'histoire. On ne peut pas ne pas parler de l'histoire. Et c'est pour ça que le documentaire dont on parlait au début, Les pas de la liberté, je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de ce documentaire pour confirmer ce que disait Hugo Hamilton. Hein. Oublie, envie de célébrer, d'oublier la réalité jusqu'au lendemain. Parce qu'elle a été très dure, cette réalité. Mais vous avez survécu et vous êtes à la pointe. Donc on écoute le documentaire, enfin Les pas de la liberté.
Confucius has a quote: "You can tell the condition of a man's kingdom by the state in which you find the dance there."
Irish dance was born out of oppression. It's such a raw form of expression.
We were colonized for 800 years. That's bound to make a mark on how we dance and how we see ourselves as dancers.
People respond to oppression by resisting it. People were determined not to be swallowed whole.
The Irish have developed a style of dance that is so intricate. The fastest footwork of all the folk dances in the world.
Percussion is the heart of it. It's not only dancing to music, but dancing as music.
It's something that's deeply human. I've always been awed by the beauty and the sheer joy of being alive, coming out in motion.
Comment vous expliquez, John Reichenbach, donc je redis votre nom pour nos auditeurs, ce goût pour cette danse irlandaise? On en entend de plus en plus parler, on voit de plus en plus de groupes qui se produisent à l'étranger. On a parlé de symbole de résistance, mais c'est aussi un symbole d'identité. Et comment vous expliquez cet engouement pour cette danse qui est restée tout de même un petit peu locale et qui maintenant s'internationalise?
Oui, c'est ça. Alors, d'abord, c'est effectivement une danse qui est issue d'un rituel ancestral qui a représenté un outil pour faire face à la pauvreté et à la colonisation britannique. Et puis, comme vous le disiez, elle est devenue une arme contre la colonisation de l'Irlande. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a l'un des intervenants qui dit « Vous pouvez tout prendre aux gens, leurs biens, leurs gagne-pains et tenter de les dépouiller de leur culture, mais vous ne pourrez jamais leur enlever leur corps. » Alors, vous savez que la danse irlandaise, c'est l'une des danses avec un jeu de jambes le plus rapide au monde.
Oui, oui.
Et c'est une danse très stricte, les dos restent droits, les mains le long du corps, etc. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que cette danse s'est mondialisée tout récemment, depuis les années 90, avec toutes ces troupes qui font maintenant le tour du monde, et notamment River Dance ou Lords of the Dance. Il y en a qui passe sans arrêt dans les moindres villes françaises et qui capte l'attention de dizaines de milliers de téléspectateurs. Et donc ça fait partie effectivement du soft power culturel irlandais aussi.
Ah, j'aime bien cette idée soft power. Et d'ailleurs, lors du festival des écrans britanniques et irlandais, il y avait un deuxième film, Nick Cap, qui a été projeté et qui est un groupe de rap engagé. Et c'est intéressant de voir cette évolution justement depuis la nuit des temps jusqu'au droit civique irlandais. On parle d'un Trainspotting à l'irlandaise. Hein, donc, c'est un film intéressant.
Oui, c'est un film très intéressant. C'est un biopic sur ce groupe de rap irlandais NICAP. Donc, c'est un trio de jeunes chanteurs de rap nord-irlandais qui sont catholiques, donc de la communauté catholique, et qui vont, alors c'est ça qui est vraiment intéressant, ils vont défendre avec leur rap la langue irlandaise, donc le gaélique d'Irlande.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, l'irlandais était vraiment en perte de vitesse.
Ouais.
Eh bien, aujourd'hui, il y a une sorte de renaissance de la langue irlandaise.
Oui, c'est assez extraordinaire. Hein. Donc, il ne faut jamais anticiper. Il peut y avoir des retournements de l'histoire. Et ces 30 glorieuses, on parle des 30 glorieuses irlandaises actuellement, très longtemps après les 30 glorieuses du continent, disons.
Oui, voilà. Vous voyez, les 30 glorieuses en France, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, 45-75. Eh bien, en Irlande, les 30 glorieuses ont vraiment démarré dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec une croissance économique complètement folle. Et avec également une transformation de la société énorme. Hein. Il y a une révolution sociétale à tous les points de vue.
Alors, vos chapitres, ils sont très, très nombreux, avec une préface. Donc, on a parlé de l'introduction d'Hugo Hamilton, mais il y a une préface qui s'intitule « Une identité qui ne craint plus d'être engloutie ». Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi sur le miracle économique irlandais, le fantasme absolu, le rêve américain. Donc, il y a toujours un rêve américain chez les Irlandais.
Oui, je pense que les Irlandais en reviennent un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec la grande famine au milieu du 19e siècle, eh bien, il y a des millions d'Irlandais qui sont partis aux quatre coins de la planète, essentiellement effectivement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Eh bien, ces Irlandais font toujours partie aujourd'hui de cette diaspora irlandaise.
Ah ouais.
Et donc, vous avez énormément d'Irlandais qui sont notamment partis en Amérique du Nord et aussi en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, si vous voulez, il y a des liens quand même particuliers, familiaux, culturels, linguistiques, avec notamment l'Amérique du Nord.
Alors vous avez tous un oncle d'Amérique, si je comprends bien.
Oui, absolument. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai ma mère qui c'est mon grand-père qui avait un frère qui a émigré aux États-Unis dans les années 1910. Eh bien, donc c'est le frère de mon grand-père. Il a eu d'autres enfants dont les enfants sont mes grands cousins. Et aujourd'hui, vous voyez, un siècle plus tard, on correspond avec les réseaux sociaux. On se rend même visite, on s'est découvert quelque part relativement récemment, mais on est reçu là-bas, quand on va là-bas, on est reçu comme si on avait, on fait partie de la famille, mais ils ne nous connaissaient pas, donc ils nous ont accueillis à bras ouverts, c'est incroyable.
Alors un petit cliché, vous êtes tous roux?
Alors, là aussi, vous savez que effectivement 10% de la population, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, est rousse, mais ça en fait quand même 90% de la population qui n'est pas rousse. Mais c'est vrai que c'est l'une des proportions les plus élevées au monde quand même.
Non, mais on est un peu dans les clichés là, c'est vrai que dès qu'on quelqu'un, on voit roux, il y a quelqu'un de roux, on se dit il est irlandais. Donc là, c'était une petite plaisanterie, mais qui n'est pas si plaisanterie que cela.
Non, parce que Sylviane, si vous vous promenez un peu dans les rues de Dublin ou de Galway ou du Connemara, vous allez voir quand même pas mal de roux par rapport à la situation à Nîmes, dans le sud de la France ou en Alsace ou ailleurs.
Alors, on parlait de la danse, on parlait des roues, on parlait de l'Amérique. La musique est omniprésente, hein, vous l'avez lu aussi dans la préface de Hugo Hamilton. Dans votre livre, il y a une énorme bibliographie pour les films, il y a une énorme playlist pour les musiques. Il y en a beaucoup, vous m'en avez donné beaucoup, je ne sais pas quoi choisir. Alors, j'hésitais entre Sinéad O'Connor et en fait une que je ne connais pas, qui est une belle mélodie chantée a cappella par Lisa Hannigan sur un texte de Seamus Heaney. Donc j'ai choisi celle-ci. Pourquoi vous l'avez sélectionnée dans les dizaines de titres qu'il y a dans le livre ?
Oui, pour nos auditeurs, d'ailleurs, on peut leur conseiller. Ils peuvent aller sur Spotify, c'est gratuit. Hein, ils peuvent regarder la playlist Comprendre les Irlandais. Et là, vous aurez une centaine de morceaux irlandais très, très différents. Et donc, Lisa Hannigan, je l'aime beaucoup parce que d'abord, j'aime sa voix. C'est une jeune chanteuse irlandaise qui chante donc a cappella avec deux amis. Et elle chante ce très beau texte de Seamus Heaney, qui est en fait le dernier prix Nobel de littérature irlandais. Il a obtenu ce prix en 1995. C'est un poète irlandais, nord-irlandais même, et c'est un auteur très, très connu dans le monde anglo-saxon. Et donc, elle chante cette très, très belle chanson a cappella. Donc, c'est une mélodie qu'elle a elle-même composée. Et elle fait partie, Lisa Hannigan, de ces femmes irlandaises qui prennent le dessus actuellement avec beaucoup de très, très belles mélodies. Et je vous propose de l'écouter.
The first hill in the world, where springs washed into the shiny grass and darkened cobbles in the bed of the lane. Thank you.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons John Reichenbach, pardon. Encore merci, John, par téléphone, puisque nous n'avons pas réussi à nous voir lors de votre venue. Merci de répondre à mon invitation et d'être aussi, aussi simple et en même temps aussi curieux, parce qu'on a l'impression que vous connaissez absolument tous les sujets et que votre curiosité, c'est peut-être lié à votre métier, votre curiosité est insatiable, non ? Qu'est-ce que vous préférez ? Quel est le chapitre que vous préférez ?
Oui. En fait, vous savez, c'est vrai que je suis journaliste, donc l'idée, c'est toujours d'aller chercher davantage d'informations. Donc c'est vrai que c'est la curiosité qui prime. Et là, l'Irlande, moi, je connaissais bien l'Irlande. J'y vais chaque année depuis déjà plus d'une soixantaine d'années. Et donc, je connais bien le pays. Mais entre bien connaître le pays et puis écrire des chapitres sur chaque particularité culturelle, etc., c'est autre chose. Donc, effectivement, il faut beaucoup travailler, il faut rechercher des informations. Et c'est vrai que les lecteurs, en général, quand ils lisent « Comprendre les Irlandais », même des Irlandais à qui j'ai offert le livre, eh bien, ils n'en reviennent pas parce qu'ils découvrent tellement de choses, parfois un peu anecdotiques. Mais même, par exemple, vous voyez, le général de Gaulle... Peu de Français savent qu'il était d'origine irlandaise par sa mère, du clan des McCartan. Vous voyez, ça, c'est quelque chose... Pour les Français, c'est important.
Donc, ça a dû être difficile tout de même de faire des choix puisque vous avez un nombre de pages qui est imposé. Ça a été compliqué ou...
C'est compliqué. Il y a plein de chapitres que que j'ai écrits, mais que je n'ai pas pu publier. D'ailleurs, on retrouve, là aussi, c'est intéressant pour les auditeurs, c'est que chez mon éditeur, Rive Neuve, il y a des bonus sur le site de riveneuve.com et donc des bonus qu'on peut lire gratuitement sur des thématiques que je n'ai pas pu aborder dans le livre, par exemple sur les relations entre les Irlandais et la Bretagne, par exemple. c'est quand même un peu les Irlandais, c'est un peu les cousins bretons.
Oui, donc, et puis j'ai trouvé aussi que vous étiez, je ne vais pas dire timide, mais qu'au niveau de l'histoire, ce n'était pas le but tout de même de votre livre et que ce n'est qu'une synthèse un petit peu de cette histoire en essayant d'être, je ne sais pas si c'est possible d'être objectif, mais tout au moins d'être optimiste. C'est-à-dire vous êtes plus tourné maintenant vers le futur que, j'allais dire, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de journaliste et vous êtes tourné vers l'avenir.
Oui, effectivement, il y a quelques pages sur des repères historiques. Bon, l'histoire, elle apparaît dans tel ou tel chapitre, mais effectivement, c'est un livre sur l'actualité irlandaise, cette Irlande qui a tellement changé au cours des 30 dernières années. Et c'est vrai que ce sont des éléments d'information qu'on ne retrouve pas forcément dans les guides traditionnels, parce que c'est vraiment un livre très, très actuel, en fait.
Et puis au plus près des gens, on sent que vous avez entendu plein de témoignages, que c'est dans la réalité, c'est ancré vraiment dans la réalité ce livre. J'ai beaucoup aimé, moi, les quelques pages sur les proverbes et autres citations. Pourquoi vous avez tenu à mettre ces proverbes et ces autres citations ?
Alors ça, c'est une demande de l'éditeur, car dans cette collection « Comprendre les peuples », il y a déjà des livres qui sont sortis sur Madagascar, sur la Corée, sur le Vietnam, etc. Eh bien, ça, c'est une demande, c'est de faire ressortir un peu ces citations, enfin, disons, des proverbes vraiment particuliers au pays. Et puis, on se rend compte finalement que ces proverbes sont souvent traduits avec d'autres mots. Dans chaque culture, c'est ça qui est intéressant.
Vous les connaissiez tous ces proverbes ou vous
non,
en avez...
Oui, mais j'en connaissais quelques-uns, mais c'est vrai que ma recherche m'a fait connaître un tas de citations les plus savoureuses les unes que les autres.
Alors moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, mais qui pourrait être aussi faite par les Bretons ou par les Normands. La pluie est très difficile à filmer, en particulier en Irlande, parce qu'elle est assez fine, si fine que les Irlandais ne savent même pas qu'elle existe. Je trouve ça très drôle. Si vous en aviez une de mémoire, enfin un proverbe, une citation à laquelle vous penseriez.
Alors, il y en a une que j'adore, c'est celle de Yeats, qui est vraiment l'un des plus grands poètes irlandais. Il dit Il n'y a pas d'étrangers ici, seulement des amis que vous n'avez pas encore rencontrés, notamment dans les pubs. C'est-à-dire, c'est aussi l'ouverture au monde et la chaleur de ces Irlandais dont on parle sans arrêt, quoi.
Oui, il y a tout un chapitre sur le pub, âme et démon de l'Irlande. Pourquoi démon? Enfin, je sais la réponse, mais j'ai envie de la poser tout de même.
Parce que c'est vrai que les Irlandais sont connus pour aimer beaucoup la bière ou le whisky. Mais ça aussi, ça relève du cliché parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de jeunes qui font attention à la consommation et qu'en litres d'alcool par habitant, l'Irlande ne boit pas davantage qu'on ne boit pas forcément davantage en France qu'en Irlande, c'est à peu près pareil. Mais c'est vrai que dans les pubs, on aime bien la bonne bière brune, quoi.
Et puis on voit ça dans les films. Je parlais de la liste des films que vous avez cités, enfin que vous citez dans votre livre. On voit ça, c'est tout de même assez typique de tous ces films sur l'Irlande. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans le pub irlandais que vous ne trouvez qu'en Irlande?
C'est vrai que vous trouvez une ambiance
La musique, la danse.
intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans les pubs, vous avez toutes les générations qui se retrouvent. Vous avez des vieux, des jeunes, vous avez des hommes, vous avez des femmes. Vous avez parfois même, alors pas forcément en soirée, mais plutôt l'après-midi, parce que je crois que le soir c'est interdit. Vous avez des tout jeunes enfants, c'est-à-dire qu'on y vient en famille. Et puis vous avez, ça aussi c'est très particulier, vous avez de la musique. Dans les pubs, notamment le week-end, le vendredi, samedi, ça c'est sûr, vous avez de la musique dans les pubs. Et on joue de la musique plutôt traditionnelle. Et c'est de la musique qui est jouée par les habitants du coin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas forcément
Oui,
ailleurs dans le monde.
je repense, je ne sais plus le nom complet de ce dernier film, Banshees. Comment c'est ce film-là
Oui,
où le.
les Banshees of
Oui,
Inisherin.
ah, j'ai adoré ce film, et c'est vrai que le pub est très très bien marqué, très
Oui.
bien référencé. Le cinéma, puisqu'on est dans une émission de cinéma, est une très belle entrée tout de même vers l'Irlande, hein, pour comprendre
Oui.
un petit peu. Et des films très récents, on a parlé de Nick Cap, on a parlé vraiment d'une Irlande qui va vers le futur.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Vous avez quand même énormément de très grands acteurs irlandais. Je ne vais pas faire la liste là, mais le dernier en date, c'est évidemment Cillian
Ah
Murphy,
ben oui.
hein, qui a eu l'Oscar pour
Oui, je
Oppenheimer
viens de le
l'année dernière.
regarder. Il est extraordinaire.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et puis il
Donc,
était
et
tout
puis
jeune
c'est.
dans Le Jour se lève aussi. Il était tout jeune dans Le
Oui,
Jour
et
se
puis
lève.
dans la série aussi Peaky Blinders, etc. Et donc ça, c'est un très très grand acteur, mais vous en avez comme ça des dizaines. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut être assez étonné par cette richesse culturelle pour cette toute petite île, quoi. Hein, c'est 7 millions d'habitants. Et effectivement, vous avez là depuis quelques années, vous avez de très grands films irlandais qui sortent sur les écrans du monde entier. Et l'autre nouveauté aussi, c'est que vous avez ces films maintenant en gaélique. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, on
Complètement nouveau.
parlait de Nick Cap, mais aussi d'un autre film, vraiment très, très beau film qui sortait l'année dernière, qui a été également présenté aux Oscars, qui s'appelle The Quiet Girl, entièrement en
En
gaélique.
gaélique. Ben merci beaucoup, John, d'avoir passé un moment avec nous à notre micro, avec cette passion et cette curiosité qui est dans votre livre également, pas uniquement dans votre voix. Et à une prochaine occasion, peut-être pour parler
Oui, merci
d'autres
beaucoup
choses.
Sylviane et
Merci.
merci mille fois pour votre invitation.
Merci.